et messieurs, ladies and gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Salut à toi qui nous écoutes au 102.2 sur radiocadu.org ou sur internet ou sur n'importe où, mais que tu écoutes la causerie. Il est 22h dans cette ville froide de Lyon et à la technique, il y a Clara.
Bonsoir.
Et on est aussi Jean-Yves avec nous.
Bonsoir et bonsoir Fab.
Bonsoir et donc c'est la causerie comme tous les dimanches ou presque à 22h et on va démarrer tranquillement cette émission qui a le... Oui parce qu'il faut fouer quand même, c'est 22h. Qui a un format habituel où on n'a pas d'invité, rien et tout. Et donc on va commencer par toi Jean-Yves qui avait envie de nous parler de cette période forte à propos où quand même il serait temps de remettre la jeunesse au pas.
Oui, tout à fait. Bah, si la semaine dernière, Fab, justement, toi, tu parlais du discours de Macron, on va dire, de façon globale, et ça permettait de voir effectivement que le réarmement de la réaction est bien là, en fait. Hein, j'ai eu ce soir envie de plutôt de parler un peu plus précisément de ce que Macron prévoit d'infliger à la jeunesse, hein, parce que je n'ai pas vraiment d'autres mots. Donc. Pour citer quelques exemples, hein, de la refonte de l'instruction civique à l'apprentissage de la Marseillaise en primaire, en passant par la généralisation du service national universel, l'expérimentation de l'uniforme dans une centaine d'établissements volontaires, le retour des cérémonies de diplôme, des remises de diplômes, etc., etc. Parce que je ne vous ai pas tout cité. Hein. Décidément, hein, la jeunesse va en prendre pour son grade, avec sûrement l'idée de voir une classe qui tient bien sage, comme dirait l'autre. Pour ceux et celles qui n'ont pas la référence... C'était les propos d'un flic quand ils avaient arrêté des dizaines de jeunes et qu'ils avaient foutu à genoux dehors. Et ce gentil policier n'avait eu que comme bonne idée que de filmer ces gamins humiliés en disant « en voilà une classe qui se tient sage ». Donc j'y voyais un petit lien.
On est dans la continuité.
Oui, c'est ça, une forme d'autorité, n'est-ce pas? Alors au sujet de l'éducation morale et civique, hein, dès la classe de 5e, Macron a évoqué un volume horaire doublé, une heure par semaine, avec en appui les textes fondateurs de la nation. Alors déjà, là je le citais quand même.
Oui, alors il faut parler plus lentement et avec beaucoup d'assurance.
Ouais, ok.
Quand tu le cites.
Je vais essayer, mais je promets rien.
C'est un peu en
donc,
mode...
En fait, ce qui veut dire qu'il lui, enfin, il dit qu'il faut passer d'une heure à deux heures par semaine. Hein. Alors vous, je sais pas, mais moi en fait, je ne peux m'empêcher de me demander bah, c'est quoi l'objectif en fait de ça? Et de quel texte en fait aussi il parle en fait? Parce que... C'est quoi les textes fondateurs finalement?
C'est ça qui est intéressant parce que en théorie une nation elle a que deux textes fondateurs et encore pas toujours parce que le Royaume-Uni par exemple n'a pas de constitution.
Oui.
Mais théoriquement c'est la constitution et le code pénal. Donc
voilà.
Je veux dire, ça va faire un peu court quoi. Enfin le code pénal au sens large quoi. Enfin,
oui.
Les codes de justice quoi. Donc ça a fait, ils vont se faire chier.
Oui. Quoi, est-ce que deux heures par semaine suffira?
C'est ça, deux heures. Il faut devenir tout juriste.
Alors, oui, c'est ça. Alors évidemment, enfin, l'idée, on peut se poser la question. Est-ce que l'idée, c'est d'en faire de bons petits patriotes?
Bah, c'est ça l'idée.
Adorateurs de la France, voire la fétichisant, hein, parce que quand même la France, s'y soumettre aussi, peut-être sans broncher, parce que l'État serait toujours juste et bon, hein, comme le montre l'histoire.
Ça, c'est écrit dans la Constitution. Hein.
Ah ouais, c'est marrant.
Bah oui, tu l'as pas assez lu.
Non, hein, c'est ça. Ah là là. Et en tâchant toujours, hein, effectivement, de minimiser peut-être la face sombre de la France, de l'État.
Ça, c'est pas écrit dans la
peut-être
Constitution.
Je sais pas.
Mais c'est vrai ce que tu dis, il y a de l'histoire ou pas?
Ah, mais si on ne sait pas.
On ne sait pas.
On ne sait pas.
Parce qu'à la limite, on pourrait, à la limite, dans l'instruction civique, dire bah, les erreurs qu'a pu commettre le pays, la colonisation, l'esclavage,
je sais pas pourquoi.
La collaboration, enfin tout ça, quoi, en fait.
C'est pas le même qui parlait de. Non, c'était peut-être celui d'avant, c'était peut-être Sarko qui parlait de la fin de la repentance.
Mais c'est Sarkozy.
C'était Sarko. Ouais. Mais vu que Sarko est très proche de Macron et est souvent en visite à l'Élysée, on peut se dire peut-être qu'il partage quand même des trucs.
Bah, il y a des chances.
Hein. Alors, on peut peut-être aussi se demander, hein, en fait, est-ce que. C'est l'envie de que les générations à venir en fait se soumettent peut-être plus facilement, hein, au 49-3 pour éviter peut-être les coups de matraque, de flashball ou de se faire fracasser voire tuer par la police, je sais pas, c'est peut-être
ou qu'ils aient l'envie par exemple de changer la constitution.
Peut-être, mais là, oui, effectivement, ça...
Bah, plus tu apprends que celle que tu as là, elle est bien, et moins tu as envie de la changer. C'est le principe, un petit peu, du truc, du texte fétichisé. C'est-à-dire, tu dis, ce texte, c'est l'aboutissement, c'est génial, machin et tout, et ça évite que des gens aient envie de se dire, bah, peut-être faut en faire une autre.
C'est ça.
Oui, c'est...
Ouais, ça dépend, parce que quand il s'agit de réfugiés ou de migrants, là, ils sont quand même nombreux à vouloir reviser la Constitution. Ouais, réviser la Constitution, c'est
ouais,
bizarre.
Les réflexes fachos, il est,
ouais, c'est marrant,
il est là, quoi, quand même.
Alors forcément, alors après, on peut continuer aussi, hein. Enfin, je vais continuer d'ailleurs, et quand Macron se dit totalement favorable, je reprends ces mots, hein, est-ce que l'apprentissage de la Marseillaise devienne systématique? Ben là, on peut se dire qu'on est clairement dans une sorte d'effet d'annonce. Parce que dans les faits, bah, la Marseillaise, elle est déjà enseignée à l'école. Hein,
déjà tous oubliés.
C'est ça. Et comme le rappelait une syndicaliste, en fait, la Marseillaise est au programme depuis 2011. Alors dans les faits, hein, la loi Fillon a rendu l'apprentissage obligatoire de la Marseillaise dans les classes maternelles et primaires à partir de la rentrée 2005. En 2011, il y a une circulaire qui rappelle que l'apprentissage de l'hymne est obligatoire et précise que cela a lieu en classe de CM1, donc soit vers 9-10 ans. Et en 2015, un arrêté demande que l'hymne soit étudié à partir du cycle 2, de 6 à 9 ans, hein, donc dans l'élémentaire.
Non mais la Marseillaise.
Bah oui.
Parce qu'à 6 ans, c'est quand même un peu ardu, hein.
Oh, toi, tout de suite.
Bah, non, mais moi, je connais que deux couplets et je la trouve déjà géante.
Je veux dire, c'est cool, les enfants, il faut qu'ils apprennent qu'on peut... le sang impur, tout ça, on sait pas. Ouais, là, après, mais... c'est les mecs qui vont dire, attention, il faut éloigner les enfants des images violentes.
Voilà, c'est voilà, ça.
Peut-être les enlever des textes violents, en fait, hein, je sais pas.
Mince, hein. Je
mais et vu que moi, je pense que Macron est pas forcément assez idiot, hein, pour ignorer que c'est déjà enseigné, encore que, hein, parce qu'on a remarqué
c'est,
que les
c'est conseillé le son idiot.
Oui, c'est
ça, des fois
aussi.
Ça arrive. Hein.
Encore que, mais effectivement, hein, articuler école et Marseillaise dans une même phrase, bah moi je pense que c'était là juste pour dorloter les oreilles et les cervelets des plus patriotes et des plus conservateurs, hein. Et je pouvais pas m'éviter ça quand même. Et ceux-là, hein, les patriotes et les conservateurs. Ils sont pas que du côté droit et extrême droite de l'échiquier politique quand même, hein. Parce que si vous regardez le nom de manifs de gauche et de rassemblement de politiciens où il y a du bleu, blanc, rouge qui flotte au vent, alors qu'avant c'était pas vraiment ce qu'on utilisait dans le...
Et où on chante la Marseillaise dans certains meetings.
Et on chante maintenant la Marseillaise, hein.
Et oui.
Même chez les plus insoumis, des insoumis qui sont la République, enfin bon, tout ça, quoi. Donc vraiment, oui, on sent bien que cette histoire de patriotisme, ça peut parler à bien plus de gens que juste l'extrême droite. Enfin... Et quant au SNU et sa généralisation, que dire?
C'est quoi le SNU?
C'est le Service National Universel.
Ah non, je savais, mais c'est pour que les auditrices...
Oui, bah c'est qu'ils ne suivent pas, parce que je l'ai cité au début.
Oui, mais des fois...
T'as
ils
pas suivi.
Mais ah. Des fois, ils ne suivent pas.
Ah,
je
voilà.
Les connais, je suis tous un par un, et moi je peux dire, non, ils ne suivent pas.
En même temps, il n'y en a que 10 qui nous écoutent. Alors, le SNU, hein, c'est une idée dont Macron parlait déjà en 2017, hein, et qu'il a mis en pratique partiellement depuis 2019. Et moi, j'en avais déjà parlé dans une causerie, dans la causerie 298 du 5 mai 2019, parce que justement, en fait, hein, le SNU, c'est de la merde en barre. Et donc, c'est ce que je me disais, c'est que bah, ça fait des années années quand même hein, à tenter de soumettre le plus grand nombre de jeunes encadrés par l'armée avec l'argent de l'éducation nationale, et tout ça devrait coûter quelques petits milliards.
Ouais, 2 à 3, j'ai
ouais, entendu. C'est ça, ouais,
c'est énorme.
Ça, oui.
C'est énorme quand dans le même temps, on a un ministre de l'économie qui nous dit qu'il faut faire 12 milliards d'économies.
C'est ça. Quoi. Et que l'éducation nationale
et
manque
toujours. Et que l'éducation nationale manque de thunes. Donc
c'est marrant.
Mais c'est comme, l'uniforme. C'est, là, on peut mettre des milliards.
C'est ça.
Mais par contre, pour juste avoir des classes correctes, assez d'enseignants et faire du 20 par classe, par exemple, là, on n'a pas de sous.
Oh, ton discours de gauchiste, ça va. Hein.
Bon, bah, je ferme ma gueule. Là.
T'as compris l'air du temps. Il faut faire. Mais ça gueule.
Pardon,
alors,
moi, j'avais oublié.
Et je me disais que bah là, enfin, le Macron, il va l'avoir, enfin, son grand rêve là, de dressage de jeunes. Parce que c'est un peu ça, hein, c'est un chenil qu'il a envie, lui. Hein. Enfin, bref, les mamelles de l'État, hein, patriotisme et militarisme, autorité et donc soumission à cette dernière, sont bien au rendez-vous. Ne soyez pas inquiets. Tout va bien. Et on peut se dire qu'effectivement, c'est pas une jeunesse libre, sachante, avec un esprit critique que veut l'État. Non, lui, il la veut docile et soumise. Alors, c'est pas pour autant que j'invite les jeunes à courir dans les bras des insoumis. Non, il faut vraiment être insoumis aux chefs, à tous les chefs. Enfin, et je ne vous parle même pas, hein, concernant le SNU, des agressions racistes, sexistes, qui ont déjà eu lieu durant des sessions du SNU.
Comme on est surpris.
Ou encore aussi de malaises, hein, qui, elles, ont été publiques. Je me souviens d'une journée où ils sont tombés comme des mouches parce qu'il faisait horriblement chaud. Enfin, c'était vraiment.
Il faisait 35 degrés, on leur faisait faire le sorte de garde à vous.
C'était ridicule. Et c'est là
soleil.
Où tu dis, c'est vraiment dans l'esprit militaire, l'humiliation.
Alors,
et,
on ne va pas demander à des militaires de faire des choses sensées.
Non.
Et je rappelle qu'ils obéissent. Donc
c'est
si on
vrai.
Leur dit, tu prends des enfants, tu les dresses et tu fais ça bien, et ils font ça bien.
Bah oui, ils sont contents.
À leur façon, oui. Je veux dire. C'est, voilà.
C'est ça. Et avec le SNU, encore une fois, hein, on se dit bien que c'est encore un projet qui plaira aux autoritaires et patriotes de tout poil.
Mais oui.
Parce que là encore, il ne faut pas l'oublier, alors il ne l'appelait pas SNU, je crois, le monsieur très autoritaire de gauche, là, comment il s'appelle ? Mélenchon, je crois. Il parlait aussi d'un truc qui ressemble à ça, mais qui n'est pas vraiment ça, parce que quand même, il n'est pas macroniste. Mais il reste patriotique et bien français. Hein.
C'est le même qui disait qu'il fallait garder le 14 juillet parce que ça faisait peur aux autres nations, comme ça, elles n'osaient pas nous attaquer.
Ça montrait...
À un moment donné, tu te dis, ah oui, quand même.
Ça montrait de quel bois se chauffait la France, hein, avec tous ces gros ces grosses armes et tout ça. Enfin, dernier point, l'uniforme à l'école, hein, parce que, dernier point, parce qu'il y en aurait encore tellement à dire au sujet des déclarations de Macron au sujet de la jeunesse que je m'arrête là, sinon on ferait une émission complète et c'est pas l'idée. Dans sa conférence de presse hein, du 16 janvier, donc Macron a évoqué à ce stade une centaine d'établissements volontaires pour cette expérimentation de tenue unique ou uniforme, hein, moi je dirais, qui ne dit pas son nom, mais c'est un uniforme. Hein. Parce que uniforme, ça fait tout de suite plus militaire, plus tristounet, plus autoritaire. Alors que tenue unique... C'est plus sympa. Vous voyez, la novlangue, tout ça.
Bah oui, c'est comme il disait, ça peut être un pantalon bleu et un t-shirt rouge.
C'est ça.
Et c'est pas du tout visible. Pantalon bleu, t-shirt rouge, ça fait pas du tout uniforme. Une fois que tu
non, une fois que tout le monde est identique, non,
c'est
ça fait plus du tout uniforme.
Pareil. Voilà, okay.
C'est juste des tenues uniques. Et tout le monde a choisi la même tenue unique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens n'ont pas de goût, hein. Qu'est-ce que je te dise? Pardon. Je m'étouffe et je reviens. Et donc, avec cette tenue uniforme qui dit pas son nom, qui efface les inégalités, hein, je reprends encore une fois les mots de Macron, ce serait prévu pour la rentrée donc 2024, donc septembre 2024, hein, c'est-à-dire là dans 7 mois, hein, c'est 7 mois bientôt, 8 mois, et avec une éventuelle généralisation en septembre 2026, selon les retours d'études à ce sujet. Alors, parce que oui, il faut que des scientifiques, etc., sciences sociales et tout, se penchent dessus pour dire à Macron et à sa clique ce qu'ils en pensent, si c'est utile ou pas. Hein.
Alors, si c'est comme pour les trucs pour le climat ou autre, on sait qu'après, ils s'en foutent, hein, parce que des scientifiques qui leur ont déjà dit « faudrait pas faire ça », il y en a plein déjà.
Alors, certains scientifiques, justement, disent que déjà, en termes de délai, c'est un peu rapide en fait pour tirer des conclusions.
Bah, une étude sur en gros un an et demi.
C'est ça. Reste que si vraiment hein, les pro-uniformes s'intéressaient vraiment au sujet, ils pourraient savoir qu'il existe déjà des études sur ce sujet justement, vu que l'uniforme est déjà porté ailleurs dans le monde, et même en France, hein, du côté des Antilles. L'uniforme, pardon, ne sert que faussement à effacer les inégalités, hein, et il n'est pas plus utile pour l'égalité ou contre le harcèlement scolaire, contrairement, hein, à ce que peuvent déclarer ces mêmes pro-uniformes. Qui a fréquenté les cours d'école, si le harcèlement scolaire ne reposait que sur la tenue, ce serait presque super, en fait, parce que finalement, ce serait hyper, hyper facile à résoudre. Mais en fait, non, hein, c'est pas du tout ça. Tu voulais dire un truc.
Oui, je voulais juste rappeler, par exemple, quand tu parlais des inégalités et du harcèlement scolaire, l'un des jeux de société les plus connus qui s'appelle Lunchbox, qui en fait est un jeu où vous devez, dans une cour d'école, voler la boîte à goûter de vos adversaires. C'est extrêmement violent. En fait, il est anglais. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il vient d'un pays où, en fait, je pourrais bien anglais, pas au Royaume-Uni, anglais, l'Angleterre. Et il vient dans l'endroit où on porte le plus l'uniforme. Et dans le jeu, vous comprenez très vite que l'uniforme, ça change rien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même cette volonté, le harcèlement, c'est le petit gros qu'il faut aller harceler. C'est un jeu très cynique, involontairement, mais voilà. On voit que, par exemple, ça marche pas.
Ouais, après, c'est un jeu. Tu peux, tu peux imaginer toute situation dans plein d'univers différents.
On est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que c'est censé éviter ce genre de truc-là et dire qu'à l'école, tout devient merveilleux. Alors que quand même, à un moment donné, ce jeu est sorti parce qu'il est sorti dans le cadre d'une action au départ contre le harcèlement scolaire et la violence. C'était une façon de pousser le curseur pour dire, regardez. C'était aussi pour dire, en fait, dans nos écoles, ça existe aussi. Et la preuve, c'est que si on prend des situations et on les met bout à bout, on peut obtenir le jeu le plus violent du monde, quoi.
Ok.
Voilà.
Et comme le déclarait justement au sujet de l'uniforme un ancien élève d'une école de Martinique, hein, je le cite, la stigmatisation peut porter sur l'état de la tenue. Certaines sont délavées, tachées ou trop petites, car utilisées sur plusieurs membres de la fratrie d'année en année, faute de moyens. Ou alors sur la façon de porter la tenue. Par exemple, entre guillemets, les intello à lunettes, qui, comme le disent les élèves, s'habillent comme Steve Urkel. Alors ça, c'est peu une remarque de vieux, mais pour les plus jeunes, cherchez Steve Urkel et vous verrez, c'était...
C'est lui qui a fait ça ?
Oui, c'est ça. Bref, le harcèlement repose sur des notions de pouvoir, en fait, hein, et non pas sur de la mode, en fait.
Enfin, clairement. Oui.
Je veux dire, si l'humain n'avait que la tenue pour mépriser, maltraiter des gens... Bah, je pense que ça se saurait quand même. Hein. Sans trop m'avancer, sans avoir fait trop d'études, je me dis que c'est pas une histoire de tenue. Quoi.
Ouais, puis c'est une vieille vision réac qui est de dire, en fait, plutôt que de régler les inégalités, cachons-les.
Oui.
Parce que c'est ça, en fait, l'idée. C'est-à-dire qu'au lieu de régler, finalement, le fait qu'il y ait des élèves qui n'aient pas à bouffer tous les matins, qui vivent dans des familles pauvres, qui aient des familles pauvres, d'ailleurs, tout simplement, en fait, au lieu de régler le problème des inégalités, on les cache. Puis on dit, ah ben on a résolu le problème, on a caché les inégalités. Mais en fait, on résout rien, en fait. On ne fait que décaler un petit peu le truc, ou même faire un truc un peu du ripollinage, comme on disait à une époque.
Toi, t'es fan de Macron, toi.
Non, mais ouais, non, mais bah ouais, en plus, c'est vrai qu'il l'a dit. Mais je veux dire, voilà, c'est on met une
c'est de la poudre à perlimpinpin.
On met une couche de peinture, on dit, tiens, maintenant c'est neuf. Alors que le mur en dessous, il est toujours craquelé, il va toujours se casser la gueule. Mais on a mis une couche de peinture, regardez, on a résolu le problème, mais on résout que dalle, en fait.
Bah justement, quand aux différences sociales, il y a des sociologues qui rappellent que l'uniforme, et je les cite, supprime les pires aspects visibles de l'inéquité socio-économique, mais n'élimine jamais celle-ci,
non,
en fait.
Quoi,
et un autre de continuer qui dit, votre être social est défini par votre éducation, votre origine, votre manière de parler. En 2 minutes, les élèves savent de quel milieu vient l'enfant qu'ils ont en face d'eux. Mmh. Et ça, ça fait partie des mythes qu'on se raconte, en fait, c'est-à-dire soit en costume, mais alors, je fais un grand écart, hein, soit même à poil, les gens te disent quand on est tout nu, il n'y a plus de classe sociale. Mais c'est pas vrai,
c'est
en
pas
fait.
Vrai, ouais.
Le vocabulaire, ne serait-ce que, ou des bijoux, je veux dire, enfin, y a plein de signes, en fait, pas de signes, de. Oh, je me perds. Mais bref, il y a plein de façons d'être, etc.,
ouais.
qui vont être des marqueurs de classe sociale, en fait. Donc, croire qu'un costume, d'un coup, va effacer tout, c'est au mieux s'illusionner, ou au pire, être complètement abruti, quoi. Enfin, je sais pas lequel des deux est le pire ou le moins bien. Enfin, je sais pas.
D'ailleurs, il y avait une étude, tu disais, quand on est tout nu, il n'y a pas de truc. Il y a une étude qui est très récente, là. Et qui disait que, par exemple, maintenant, le marqueur social chez les naturistes, c'est le poids. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, les personnes plus riches ont le temps de faire du sport, machin, donc ont souvent des corps plus dessinés, voilà, sans surpoids, machin, alors que les personnes plus pauvres ont souvent du poids, et ce qui fait qu'en fait, c'est devenu un marqueur social. C'est-à-dire que, bah, on sait, on se réunit par caste aussi, y compris chez les naturistes. Donc, c'est la preuve que, voilà, ça change.
En costume ou en uniforme, voilà,
ça
n'efface
pas les choses.
Ça n'efface pas, toutes les différences que la société constitue aussi. Hein, je veux dire,
bien sûr,
on n'en est pas comme ça, quoi. Et donc, je me disais, en fait, la somme de tout ça, c'est quand même une belle réaffirmation, hein, une belle construction autour, toujours plus marquée, de patriotisme et de républicanisme. Et même si, pour une partie, c'est de l'effet d'annonce, moi, vraiment, je pense qu'il y a deux, trois trucs, c'est de l'effet d'annonce parce que. Parce que c'est de la politique et que voilà, ça se fait quand même sur des thématiques assez merdiques, quoi.
Hein, c'est-à-dire, et sur des gamins.
Et sur la gueule de gamins, c'est tout le truc, quoi. Il y a les thématiques et sur le public qui va en être la victime, en fait, quoi. Et je me disais, on a l'impression, c'est comme si l'État, comme si la République, hein, se sentait en danger. Hein, toujours aussi ce besoin de leurs défenseurs de s'affirmer toujours plus fort, hein, toujours plus affirmer l'autorité, les règles, les limites, hein. Bien se dresser. Oui, on dirait bien en fait que lorsque Dieu et les rois ont été évincés, c'est la nation et la République en fait qui les ont remplacés. C'est pareil, hein. On les a mis. C'est un peu des trucs sacrés aussi, hein, qu'on n'a pas le droit de toucher, pas le droit d'interroger. C'est une forme de blasphème.
Et pas le droit de modifier.
Il faut pas blasphémer sur la République. C'est rigolo. Bref. Et sur ce sujet, hein, justement, je me disais. Ils seront très nombreuses et très nombreux les défenseurs justement, hein, de cette République et de l'État. Peut-être que même vous, amis auditeurs, auditrices, vous en serez aussi de ces défenseurs de l'État et de la République. Parce que justement, le patriotisme et le républicanisme est partagé quand même par tous les l'échiquier politique, en tout cas qui participent aux élections politiques et tout ça. Et même si après il reste les anards, hein, mais si les anards étaient majoritaires.
Il y a aussi une légère petite gauche internationaliste, mais elle est très très minoritaire.
Mais oui, c'est ça, je veux dire, ça reste du domaine de l'ultra minoritaire, comme peuvent l'être les anards, quoi. Donc voilà. Donc tout ce charabia, hein, patriotico-républicaniste, permet évidemment surtout aussi l'invisibilisation totale des vraies problématiques de l'école, en fait. Entre des classes surchargées, des profs sous-payés, pas assez nombreux, du manque de moyens pour les enfants en situation de handicap, des gamins qui dorment dans la rue, des étudiants qui manquent de moyens, qui n'ont pas assez pour bouffer, pour se loger, des gamins harcelés et qui ne sont pas protégés par cette belle école, etc. etc. Ou encore... Un des profonds problèmes, je pense, de l'école et tout ça, c'est la compétition, hein, et la hiérarchisation des individus. Et ça, est-ce que finalement, ce ne serait pas en fait toute notre société, dans sa totalité, qui les porte, alors via son système économique, hein, qui finalement, c'est la loi du plus fort et c'est les plus gros qui gagnent, mais aussi politique, et évidemment l'éthique, quoi, hein, parce que l'éthique, on la cherche encore. Bref, l'État pourra malmener les enfants et ados qui le peuplent, ça ne changera pas les fondations de ce même État et des valeurs qu'il défend. Et si en plus, ça rassure le bon peuple, eh ben n'hésitons pas, humilions les enfants, dressons-les comme des petits chiots. Et voilà, je vais m'arrêter là, mais je sais pas si j'étais clair, mais voilà, je...
Ah, si, t'étais clair, mais et surtout ironique à la fin, parce que tu ne veux pas qu'on dresse les enfants comme les petits chiots.
Non, même les petits chiots, est-ce qu'on a vraiment besoin de les dresser, enfin, faut pas qu'ils fassent pipi partout, mais à part ça. Mais ce qui fait que oui, en fait, c'est juste, j'ai trouvé que la charge là sur les enfants, les ados, elle est vraiment énorme, et ce qui me fait un peu plus peur encore... C'est que
le peu de réaction.
Oui.
Moi, je suis d'accord avec toi.
C'est ça. Il y a peu de réaction. Mmh. Les gamins, on sait bien que majoritairement, ils vont pas s'organiser. Enfin, à 7 ans, tu t'organises pas pour faire grève, pour faire des manifs, etc.
Ou s'ils y arrivent, chapeau bas.
Ou s'ils y arrivent, tant mieux. Mais en fait, c'est aussi ça, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est aussi une belle démonstration que finalement, on va charger la mule sur celles et ceux qui peuvent le moins s'organiser.
Bien sûr.
C'est-à-dire que si c'est pas les réfugiés ou les migrants, hein, qui finalement tu peux difficilement des fois t'organiser quand t'es dans une précarité de fou, tu te mets sur la gueule des pauvres ou sur la gueule des enfants, parce que de toute façon t'es sur des classes, on va dire des classes sociales, des classes, on va dire, ou des groupes sociaux.
Ouais.
Des groupes sociaux, pardon, qui ne peuvent pas vraiment beaucoup s'organiser, en fait.
Non, mais clairement. Hein.
Et on se rend compte que finalement il n'y a pas grand monde qui est là pour dire, non, en fait, faut arrêter d'instrumentaliser les gosses et il faut juste... Enfin, et puis même, il y a l'uniforme, il y a aussi quelque chose de... Enfin, on te nie, en fait. Alors, je sais, ça, tout le monde ne sera pas d'accord forcément avec ce propos, mais je pense que le vêtement est aussi... aussi un moyen de s'exprimer, en fait.
C'est important de soi-même.
Et puis je me dis, qui c'est qui va avoir sa gueule quand je dis ça? Les anards, ceux qui sont tous habillés pareil, les queers qui ont les mêmes couleurs de cheveux bizarres partout, les... Enfin, je veux dire, en fait, il y a tous les groupes sociaux, etc.
Bah, ils ont une forme d'affirmation.
Il y a une forme d'affirmation, une forme de bah, visibilisation oui. par la tenue, les cheveux, etc., etc. Et c'est pas grave en soi. Mais juste, les
mais
enfants
quand
aussi,
c'est imposé, c'est différent.
C'est ça, en fait. C'est juste, là, les gosses, en fait, on va les nier, mais vraiment, du début à la fin, on va juste leur demander de se taire et de réciter les belles leçons et la belle marseillaise, quoi. Et je trouve ça absolument gerbant. Parce que quand on est capable de vouloir appliquer ça à des individus qui n'ont pas beaucoup de moyens de se défendre, bah c'est qu'en fait, on vaut pas grand-chose, en fait, éthiquement parlant et politiquement parlant. Bah on vaut pas grand-chose de positif, en tout cas, à mes yeux.
Et là où je te rejoins sur le fait... Enfin, je te rejoins sur plein de trucs, mais en particulier...
Tu as le droit d'être pas d'accord non, et de non, soutenir mais... Macron.
J'attendais. J'ai vu venir celle-là, mais comme un cheval au galop. Et donc, non, mais ce qui est intéressant, c'est d'observer que quand on tape sur les jeunes, en fait, il y a... une sorte de consensus, d'abord parce que je pense sincèrement qu'on est dans un moment où, plus peut-être qu'à une certaine époque, une grande partie de la population a peur de sa jeunesse, c'est-à-dire qu'elle ne la comprend pas, donc elle en a peur, alors que, en fait, bah, c'est juste une jeunesse, elle va bien, vous inquiétez pas, elle va vieillir comme vous avez vieilli, un jour elle sera aussi peut-être apeurée par la jeunesse qui arrive après, mais c'est comme ça, il faut arrêter d'être dans cette espèce de panique vis-à-vis des plus jeunes. Il y a aussi une sorte de fétichisation de la jeunesse à gauche comme à droite, qui est complètement idiote, parce que la jeunesse, elle est multiple, il y a autant de réactions que de progressistes dans la jeunesse qu'il y en a dans le reste de la société. Et puis, il y a aussi cette notion, moi, qui m'inquiète, partir du principe que c'est à l'école de faire la nation. Et ça, c'est hyper mauvais quand on parle là-dessus. D'abord, on va quand même rappeler, je suis désolé de faire ça, mais parce que des gens me disent souvent, ouais, il ne faut pas dire ça, mais un des rares moments dans l'histoire où ça a été affirmé vraiment, c'est Pétain. C'est le moment où on a dit c'est à l'école de former la nation. Et après, c'était pendant la Troisième République où on disait il faut que l'école soit le fruit, machin, là, les hussards de la République et compagnie. Et en fait, le problème, c'est qu'on revient sur les moments les plus réactionnaires de notre histoire. Je rappellerai quand même que les hussards les hussards noirs, hein, c'est-à-dire les profs qu'on envoyait, c'est quand même eux qui ont tué les langues régionales, c'est eux qui ont mis au pas les enfants. Ils l'ont fait avec une violence. Enfin, si vous voulez, lisez sur ce qui s'est passé en Alsace, au Pays Basque, en Bretagne, et la violence qu'on a déployée sur les gamins, mais qui était d'une... Mais aujourd'hui, on en serait outré, on dirait, mais c'est pas possible, sauf que c'est allé à un niveau, mais qui est fou. On enfermait des enfants dans le noir pendant 8 heures parce qu'ils avaient osé prononcer deux mots dans leur langue dite patois à l'époque, mais qui était en fait une langue régionale. Ouais, c'est des choses comme ça, et des violences physiques, des coups de règle, des choses, voilà. Et en fait, tout ça... Eh ben, ça a l'air d'être vu comme quelque chose de positif. Aujourd'hui, on dit, faudrait revenir à ce temps-là, ou je sais pas quoi. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on en est sorti de cette période-là. Et on en est sorti parce qu'on sait que c'était pas bon. On sait que ça a brisé des enfants. On sait que ça a été, que souvent, quand on l'a vécu soi-même, il suffit de parler avec des gens qui ont été à l'école dans les années 60 et qui vous disent, putain, heureusement que vous vivez pas ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. La règle carrée sous les genoux, des trucs comme ça. Enfin, et en fait, c'est pas de l'autorité quand on est violent avec des enfants. Quand on est violent avec des enfants, c'est de la violence. Ça n'a rien à voir avec l'autorité des profs ou je sais pas quoi. Et une fois encore, si vous avez peur, que vous pensez que vos enfants n'ont pas d'autorité assez forte face à eux, c'est avant tout parce qu'un prof face à 30 élèves a moins de possibilités de s'imposer en tant que professeur, pas du tout en tant que personne dire autoritaire, mais de professeur, que face à 20. Donc déjà, si on résout le problème de se dire il faut qu'on arrête qu'il y ait des classes surchargées en permanence, l'autorité vient d'elle-même parce que les gens, ils ont envie d'apprendre, les jeunes. Ils ont pas, il y en a qui n'ont pas forcément envie, mais ils sont minoritaires. Et ceux qui n'ont pas envie, il faut trouver aussi une solution, mais pas oui. Une solution d'exclusion.
Ben ouais, mais après, ça retombe sur, je crois que c'est ce que je disais déjà la semaine dernière, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus facile et lâche de se dire il faut dresser la jeunesse plutôt que de se dresser face à l'État en disant il nous faut des moyens pour que nos gosses puissent être dans des classes de 12, 15, parce qu'il faut de l'attention à l'individu, parce qu'on veut des individus qui s'émancipent, qui apprennent à leur propre image, avec et libre, etc. Mais qui apprennent aussi avec leur propre manière, parce que d'étudier pour des millions de personnes, c'est juste aberrant en fait. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus facile finalement de lécher la main du maître pour qu'il fracasse la jeunesse et qu'il l'adresse. Et ça, c'est là où tu te dis, les jeunes d'hier qui sont aujourd'hui plus âgés sont les mêmes vieux cons qui pouvaient dénoncer quand eux étaient jeunes en fait.
C'est ça.
Et c'est peut-être ça qui est dramatique.
C'est ça qui est triste d'ailleurs.
Il y a une forme de répétition quoi. On va passer rapidement à la musique.
Allez.
Allez.
D'abord, il y a eu la paix. La paix qu'on entretenait chacun en posant un flingue sur la tempe de l'autre. Puis il y a eu les hommes. Beaucoup d'hommes. Et que des hommes. Pour bien faire tenir tout ça, on a mis des murs. Dans les têtes, dans le ciel, dans le désert, dans la mer. Fallait pas qu'on s'inquiète. On avançait, sans progresser, certes. On faisait croire, on avançait. Mais c'est comme tout. Pendant une chute, on croit toujours au volet. Si c'est la fin de ce monde, ok. Si c'est la fin de ce genre humain sans humanité, ok. Si c'est la fin de l'autodestruction, ok. On nous a trop demandé d'unir nos forces. On pourrait unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Unir nos faiblesses. Nous sommes le sol qui se dérobe sous nos pieds, nous. Nous sommes les témoins du monde qui régresse. Le poing dans le visage de la sagesse, nous. Nous sommes la preuve du contraire. Les coups de pied dans la portière, nous. Nous sommes la réussite par l'échec, nous. Des mauvaises filles, des mauvais mecs, nous. Nous sommes des attardés du cœur, quelques balles dans le corps. Des présumés capables, des héros un peu sales. On dégenre, on dérange, on dérange, on dérange, tu dégages, nous. Nous on marche la nuit dans la vie, soit on s'emmerde, soit on fuit. Nous sommes des cartes bleues bloquées, nous sommes des rendez-vous ratés. De décevoir, nous sommes la face cachée de la belle histoire. Nous sommes plutôt bien élevés. Nous sommes une sexualité accidentée. Nous sommes un joli film d'erreur. Un joli film d'erreur. Une arme blanche à la place du cœur.
Allez, reste, on est fort. C'est pas demain la veille que cette putain de vie nous fera la mort. Feu à la mort.
C'est pas demain la veille que cette putain de vie nous fera la mort. On vient de s'écouter Martin Luminet avec une nouvelle version du titre Monde et qui est donc nommé nouveau entre parenthèses Monde. Et je vous invite vraiment, si vous ne l'avez jamais encore écouté, Martin Luminet, et si vous avez la chance de pouvoir aller le voir sur scène, courez-y, c'est très très bon, avec toujours des textes entre tristesse,
mélancolie et envie que ça change.
C'est ça, c'est exactement ça. Le désespoir.
Oui, mais il faut toujours regarder le désespoir en face pour le changer.
C'est exactement ça.
C'est le principe.
Voilà, c'était Martin Luminet, sûrement pas la dernière, vous entendrez. C'est Fab qui prend la suite. Et alors, toi, tu vas nous parler d'un rapport pas du tout rassurant du HCE.
Bah ouais, le HCE, le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes, le 25 janvier, qui était la journée de lutte contre le sexisme, je le rappelle, enfin officialisée, parce que c'est une journée qui existait déjà mais qui n'était pas officielle, le HCE, donc, alors je rappelle que le HCE, c'est pas des anards ou des gauchistes, hein, c'est Sylvie-Pierre Brossolette qui est à la tête et c'est un truc qui dépend de l'État. Hein, donc voilà, donc on n'est pas chez des gens très virulents globalement, mais bon, non mais c'est juste pour placer. Donc c'est le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Il a donc rendu un rapport le 25 janvier parce qu'il s'est dit que c'était une bonne idée de faire un peu un état des lieux, ce qui est tout à fait vrai. Je ne dis ça sans plaisanter. Et moi, vu que j'entends partout qu'il y a des ouin-ouin réactionnaires qui nous expliquent qu'on ne peut plus rien dire et que le monde il est devenu trop dur pour les hommes, que les femmes sont méchantes et elles ont tout gagné, eh ben moi je m'attendais quand même à ce que ce rapport soit l'un des premiers positifs et plein de bonnes nouvelles que j'allais lire. Bah oui, quand même.
Et c'est pas le cas.
Bah j'avoue que je savais quand même que ce serait pas tout à fait le cas, mais j'avais pas envisagé quand même que ce soit ce point-là. Ouais, c'est peut-être ça, peut-être le truc qui m'a le plus fait bizarre. Alors il y a des chiffres et des mots MAUX, hein. Pas là, parce que c'est ça qui est important. On va commencer quand même par le premier chiffre, hein, qui fait un peu froid dans le dos. 2/3 des femmes estiment avoir été éduquées différemment que leurs frères dans la vie de famille. Oui, je répète, 2/3 des femmes estiment avoir été éduquées différemment que leurs frères dans la vie de famille. C'est énorme, hein. Et ce, quel que soit leur âge. L'étude, elle porte sur des personnes qui sont de 15 à 95 ans, donc c'est quand même assez large. Oui, donc en 2023, on a donc encore une vraie différence de traitement entre les garçons et les filles dans les familles. Et quel que soit le milieu ou le bord politique. Hein, parce que oui, dans les familles dites de gauche, je mets des guillemets, le chiffre est sensiblement le même que dans les familles dites de droite. Donc voilà.
Ça doit être les mêmes familles de gauche qui n'ont rien contre l'homosexualité, sauf quand c'est leur enfant. Ça doit être les mêmes.
Ça, j'avais pas fait le parallèle, mais ça doit être les mêmes. Et cela donc a de fortes conséquences. Par exemple, 74% des femmes, interrogées, n'ont jamais envisagé de carrière dans des domaines scientifiques ou techniques, car ces domaines leur ont été présentés comme réservés aux hommes ou pour les hommes. Voilà. Donc c'est juste hallucinant quand même, et c'est surtout se priver de plein de savoirs, hein, parce que ça fait plein de cerveaux qui ne sont pas allés dans des endroits où ils auraient pu aller quand même. Voilà.
C'est vrai que surtout qu'en plus on manque d'exemples de scientifiques femmes.
non mais c'est vrai.
Non mais je pense à non mais alors
il y en a un des
oui oui non mais justement je veux dire la France c'est quand même celle aussi qui se gargarise sur par exemple Marie Curie.
Oui, bah voilà, mais Marie Curie à l'époque,
je crois pas qu'elle était dans le Caire.
Non mais déjà à l'époque d'ailleurs Marie Curie elle doit se battre.
Ah non mais ça je dis pas mais oui. C'était pas hier.
Ah non, c'est tout à fait, c'est 1905. Donc ouais.
Finalement.
Donc moi j'entends souvent aussi que la jeunesse les plus jeunes seraient plus féministes que les autres. Alors eh bien en tout cas, en ce qui concerne le salaire, c'est pas encore ça. La preuve, c'est que plus d'un homme sur cinq de 25 à 34 ans, alors je ne sais pas si on peut dire encore jeune, 25-34 ans, mais voilà, considère normal d'avoir un salaire supérieur à sa collègue à poste égal. Ouais, un homme sur cinq.
Et est-ce qu'il le... Oui, ça serait compliqué, mais il n'y a pas de justification à ça.
Ah non, c'est juste que c'est normal.
Juste, c'est normal.
Voilà.
D'accord. Ouais.
Et donc, c'est donc ce qui est un peu surprenant et qui fait un peu peur, c'est que ce un homme sur cinq de 25 à 34 ans, c'est supérieur à la tranche 50-60 ans. C'est-à-dire que chez les 50-60 ans, c'est 10%. Donc 1 sur 10, voyez. Donc c'est là qu'on se dit, bah, mince, il y a un truc qui a été raté, parce que ça aurait dû diminuer. Pas augmenté.
Pas comme quoi, on peut avoir une jeunesse qui emmerde le Front National et qui emmerde aussi l'égalité.
Ouais, tout à fait, voilà.
Non, mais c'est. Pardon,
mais c'est vrai, c'était pas une jeunesse.
C'est ça, voilà. C'est pour ça que je vais reprendre ce que tu disais avant, c'est qu'en fait, on fait un bloc uniforme.
Mais c'est pas uniforme.
D'un groupe social, alors qu'en fait, la jeunesse, elle est vaste.
Donc là, il y a un vrai retour en arrière qui a quand même de quoi inquiéter. Et vraiment. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans ces personnes-là de 1 sur 5, parce qu'il y a des gens qui ont minimisé, notamment la droite sur les plateaux télé, et qui a dit bah, ça va 1 sur 5 c'est pas énorme. Oui, sauf que ça veut dire que potentiellement vous avez un chef sur 5 qui estime que ça c'est un homme chef sur 5 qui estime que c'est normal. Alors vous ramenez ça à la masse de nombre de salariés au travail, ça fait un paquet de monde qui vont discriminer quand même. Donc c'est pas négligeable 1 sur 5. Ouais, pardon, je croyais que tu voulais parler.
Non.
Alors, bon, j'aurais pu, moi, m'arrêter là, hein, parce que c'est déjà pas très joyeux. Mais non, alors, il n'y a pas pire, hein, parce qu'il n'y a rien d'acceptable, très clairement. Mais il y a d'autres choses peu réjouissantes. Alors, je vais continuer quand même.
Allons-y.
Hein. Alors, vous pensiez que les hommes étaient plus déconstruits et que ça allait mieux, hein? Parce que moi, j'ai regardé CNews, il paraît qu'il n'y a que des hommes déconstruits maintenant.
C'est ça le problème. C'est que tu as regardé CNews.
Eh bien, sachez que 70% des hommes, oui, 70% des hommes, pense qu'un homme doit avoir la responsabilité financière de sa famille et que ce chiffre stagne depuis 30 ans. Oui, ça fait 30 ans que 70% des hommes estiment que c'est à eux d'être les chefs de famille, hein, pour reprendre les termes tels qu'ils doivent être. Oui, et donc en 2023, les porteurs de couilles ou vus comme des mecs estiment donc qu'ils sont les piliers de la vie des femmes. Voilà, et de la famille. Ce qui d'ailleurs, oui, parce que famille commence à partir du moment où vous avez une femme. Mmh. Voilà, enfin une épouse ou un époux ou une personne dans votre vie. Ce qui d'ailleurs nourrit les sexismes et les différences de salaire. Bah oui, c'est un cercle vicieux, hein. C'est un cercle vicieux qui s'alimente en quelque sorte. Donc le mythe viriliste de l'homme protecteur des siens a encore malheureusement de beaux jours devant lui et ça c'est plutôt très inquiétant. Quand même. D'ailleurs, ça va avec le fait que plus de la moitié de la population trouve encore normal ou positif qu'une femme cuisine tous les jours pour toute la famille. Bah ouais, hein, voilà. Et quand on parle de population, ce qui est le plus étonnant et peut-être le plus effrayant, c'est que la proportion est la même chez les femmes et chez les hommes. Et là, c'est plus embêtant, ils sont sur le même ressenti. Alors donc, bah, il faut croire que les vieilles pubs des années 50, hein, tablier pour madame et monsieur sirotant son whisky, c'est encore d'actualité.
Ben ouais, mais en même temps, je sais plus si c'est dans un des livres que j'avais une fois chroniqué, etc. Il y a aussi une partie des femmes qui sont un rouage du patriarcat, qui l'appliquent et qui l'ont intégré. Et que ça ne veut pas dire que toutes les femmes, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer les choses. c'est aussi un état de fait. Et en fait, je pense qu'il faut absolument regarder justement la réalité dans sa complexité.
Bien sûr.
Que c'est pas toututes les femmes ne sont pas féministes. Et non, quoi.
Non, mais surtout, il y a aussi des clichés, des habitudes, des choses comme ça, qui doivent s'attaquer à la racine et que c'est pas aussi simple que de simplement dire.
Exactement.
Voilà, et que ça est juste en fait un état des lieux et que l'état des lieux il est pas joyeux, donc faut quand même le regarder en face.
Ah oui.
Parce qu'il va falloir après aller attaquer la racine. Et ça rejoint peut-être d'ailleurs l'idée qu'il serait peut-être temps que les femmes qui font des études, les jeunes filles qui font des études, aillent sur des études scientifiques par exemple ou mathématiques ou autres pour être enfin elles aussi des chefs de famille. Pardon, ça c'était pour la blague. Alors on pensait que le fait que les femmes s'arrêtent pour s'occuper des enfants avait reculé, vous savez, c'est le truc qu'on s'est dit maintenant on va mettre un congé paternel. Ça va être cool comme ça, machin et tout. Et ce qui est très bien, attention, je vais la représenter comme ça, mais je trouve ça plutôt positif. Même, je trouve ça positif, pas plutôt, je trouve ça positif. Bon. Mais en fait, il n'en est rien. Alors, surtout paradoxalement, chez les plus jeunes, bah ouais, où l'idée qu'il est normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper des enfants, bah, gagne 7 points et atteint 34% des intéressés entre ce rapport et celui d'il y a 2 ans. Pas terrible hein, quand même.
Ouais, et en même temps, enfin moi, j'ai toujours un truc, c'est vraiment il y a un mythe de la jeunesse quoi.
Ouais,
il y a un mythe de la jeunesse open, etc. Alors
elle l'est en partie, mais pas toute.
C'est ça en fait, pas toute en fait.
Non. Mais 37% c'est beaucoup. 34% c'est beaucoup.
Ah, je dis pas que le chiffre est minime et qu'il n'est pas inquiétant, hein, mais on retombe toujours sur ce truc de. Ben oui, il y a une partie de la jeunesse qui est purement réac, quoi.
Et ben justement, tu parlais d'une partie de la jeunesse purement réac, c'est d'ailleurs à mettre en parallèle hein, ce chiffre avec les 37%, plus 3 points par rapport au dernier rapport, des hommes qui considèrent que le féminisme menace leur place dans la société et la position qu'ils doivent avoir naturellement. Et voilà. Donc, c'est pas mal quand même, 37%. Alors là, c'est 37% des hommes, donc c'est tous les hommes interrogés, hein. C'est pas que les jeunes.
Oui, c'est ça en fait. Et là, c'est,
mais les jeunes ne viennent pas minorer ce chiffre, ça augmente quand même.
Et c'est donc, assez hallucinant parce que finalement, cette notion de place naturelle, enfin, on retombe dans vraiment.
Le naturalisme.
Mais oui, en fait, je veux dire, ce qu'il y a de plus réac et voire plus que réac en fait, quoi. Et c'est vraiment affligeant, oui.
Ben oui. Alors, il y a aussi la notion que les violences sont toujours présentes hein, et terriblement. Fréquente. Ça, alors, je vais quand même là aussi donner des chiffres. Ça a donc pas, c'est tout ce que j'ai dit avant, ça n'a pas zéro conséquence, bien au contraire, ça a des conséquences hein, sur ce qui se passe. Et les conséquences, elles sont souvent dramatiques, hein, violence physique, viol, meurtre et autres. Et oui, parce que derrière des pensées, bah, se trouvent toujours des actes. Parce qu'on a toujours tendance à dire que c'est que des pensées. Bah non, derrière, il y a des façons d'être à la société. Donc voilà. Donc, quel que soit leur âge, et là je dis bien quel que soit leur âge, 9 femmes sur 10 déclare avoir personnellement subi une situation sexiste dans l'année qui précède. 9 femmes sur 10, c'est énorme. On est loin, je trouve, du « on peut plus rien dire et plus rien faire hein, » qu'on entend chez tous les masculinistes et compagnie, et tous les ouin-ouin très réac qu'on entend beaucoup en ce moment. Parce que, en réalité, ils font même beaucoup, puis ils font violemment et très largement. Parce que 9 femmes sur 10, c'est juste énorme. Voilà. Chez les hommes, les réflexes masculinistes persévèrent hein, et se perpétuent. Un quart des 25-34 ans pensent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Un quart, c'est énorme. Hein. Ce qui est la même proportion hein, que leurs aînés jusqu'à 60 ans. Donc là aussi. Et dans les plus jeunes, c'est-à-dire avant 25 ans, eh ben, en fait, la question a été enlevée du questionnaire. Et ce qui est une erreur, et d'ailleurs ils ont dit l'année prochaine on va le mettre parce que c'est un peu inquiétant. C'était un choix, hein, vous savez, quand on fait un questionnaire, c'était pour voir. Donc on a quand même là une continuité assez affolante hein, de justification de la violence, parce que si de 15 à 60 ans, on a à peu près la même proportion de gens qui estiment recours à la violence. Et alors le recours à la violence, il n'est pas que envers les personnes extérieures au foyer, c'est aussi dans le foyer. Hein. Vous avez compris que c'est un recours à la violence généralisée. Donc voilà. Et alors que vous pouvez penser que la vague hashtag MeToo avait sans doute aidé, surtout chez les plus jeunes, et ben c'est pas encore tout à fait le cas. Les violences sexistes et sexuelles ne reculent pas, même bien au contraire. 37% des femmes déclarent toujours avoir vécu une situation de non-consentement dans l'année qui précède, un chiffre qui grimpe à plus de 50% chez les 25-34 ans. C'est juste hallucinant. C'est surprenant, mais c'est pas inexplicable. Et c'est ça peut-être ça qui va maintenant un peu m'intéresser, c'est pourquoi ça reste explicable et pourquoi c'est terriblement explicable. Eh ben, allons nous balader du côté des réseaux sociaux, de la presse et de la télévision, au secours des masculinistes et des masculinismes, parce qu'il y en a beaucoup. Et si on a un discours offensif contre les violences sexistes et les clichés, il ne faudrait pas sous-estimer hein, quand même que la bataille des idées est aussi menée par les plus réactionnaires et qu'ils arrivent à le faire avec des outils sur lesquels nous ne sommes pas forcément, ou nous, des fois nous n'allons pas aussi par choix ou par volonté, mais où les plus jeunes, eux, sont énormément. Et c'est ça qui est visé aujourd'hui, c'est la jeunesse. Par exemple, en ligne, 75% des femmes affirment ne pas être traitées à égalité par rapport aux hommes. Voilà. Sur Instagram, par exemple, 68% des vidéos véhiculent des stéréotypes assignant les femmes à la maternité. 68% des vidéos présentes sur Instagram. C'est juste énorme. C'est-à-dire qu'en fait, y a une sociologue qui disait, dans une émission que j'ai écoutée, elle disait un truc très inquiétant d'après elle, mais elle dit « Ce qui est fou, c'est que donc, ça veut dire que l'un des premiers sujets sur Instagram, après la beauté, c'est la maternité pour les femmes. » Et elle dit, c'est quand même inquiétant, quand même, dans une société moderne, en 2023-24, maintenant, d'avoir, en fait, comme deuxième centre d'intérêt, la maternité. Elle dit, ça ne correspond pas à ce qu'on imaginerait. Et pourtant, c'est le cas.
Oui, en même temps, ça se complète tellement, quoi.
Oui, ça va avec.
La beauté et...
Soit une mère et soit une belle-mère.
C'est ça.
Enfin... Mère jolie. pas dans ce rapport, hein, parce que j'ai trouvé le chiffre ailleurs, mais dans un sondage fait pour un éditeur de jeux vidéo, alors je le citerai pas parce que je peux lui faire de la pub, 89% des joueuses affirmaient avoir été sexualisées à chaque partie. C'est énorme, à chaque partie. Je vous chercherai, c'est l'éditeur de Minecraft. Ça, vous pourrez trouver l'éditeur. Mais c'est parce qu'en fait, justement, Minecraft étant le jeu le plus vendu dans le monde et le plus joué, bah, ils ont un peu essayé de savoir comment se sentaient les joueuses. Sur leur jeu, et même eux ont été extrêmement surpris et dans le bon sens du terme, parce que ça leur a fait réfléchir à comment éviter ça, des résultats qu'ils ont eu. Donc 89% des joueuses qui affirment être sexualisées à chaque partie, et 78%, alors là c'est tout jeu confondu, c'est pas que Minecraft, c'est tous les jeux confondus, 78% d'avoir déjà reçu des photos de pénis non désirés pendant une partie. Voilà, sur les chats, les play chats, tout ça, la PlayStation, Xbox, voilà. Alors, Nintendo a beau jeu de dire que chez nous, on ne peut pas envoyer de photos. Voilà, non, mais je vous dis, je plaisante parce que ça a été un argument chez eux, mais en fait, c'est peut-être pas forcément la solution non plus. Le vrai problème, c'est que ce n'est pas logique que 78% aient déjà reçu des photos de pénis non désirées.
Oui, en fait, c'est voilà. Surtout ça. Ça veut dire
c'est pas le fait qu'on puisse en échanger des photos, c'est le fait que pourquoi on envoie sa bite.
Ça veut dire que des mecs jugent.
Norme. normal.
Tout à fait normal et adéquat d'envoyer sa teub à quelqu'un qui ne l'a pas demandé,
bah oui.
qui ne le souhaite pas et qui n'est pas là pour ça, quoi.
Ben non, on parle de gens qui jouent. Hein,
mais c'est ça, quoi. C'est vraiment là, c'est mettre des pains, quoi.
Donc c'est pour ça d'ailleurs que
c'est pas bien la violence.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, joueuses qui, c'est ce qu'elle disait dans l'article que j'ai lu, qui prennent maintenant des pseudos masculins. Pour plus être emmerdé. Ouais. Donc, on sent qu'il y a quand même un peu beaucoup de travail là aussi. Hein. Et ça concerne aussi les contenus pour les enfants. Alors, je rassure tout le monde, je ne parle pas des dick pics pour les enfants. Mais 92% des vidéos pour enfants qu'on trouve sur Internet, à la télévision, donc sur tous médias confondus, contiennent des stéréotypes genrés, selon le rapport du HCE. Donc, c'est énorme. Hein, c'est 9 sur 10. Voilà. Et en fait, bah, ces stéréotypes genrés, ils s'imprègnent dans la tête des enfants. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait une remarque très juste. Une des chansons les plus connues et les plus téléchargées, c'est Baby Shark. Et dans Baby Shark, eh ben, Maman Shark, elle fait pas la même chose que Papa Shark.
Okay.
Mais c'est là aussi genré. Voilà, marrant, comme quoi, ça, même sur une chanson très connue, ben, il y a quand même dans le clip une différence entre maman et papa. Pourtant, c'est des requins. Hein.
C'est ce que j'allais dire. Okay, pourtant, voilà. On parle de requins.
Donc, voilà.
Ce qui fait qu'on ne connaît pas vraiment leur société. Quoi.
Non, puis cette chanson me rend fou. Alors, dans les contenus télé... dans les contenus de télé, le sexisme serait présent dans plus de 78% des séries diffusées et dans plus de 70% des talk-shows, selon une étude menée par des associations féministes. C'est énorme, hein, on est sur des chiffres quand même très massifs. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le chiffre est massif, plus il y a de chances que les plus jeunes, ou pas que les plus jeunes, d'ailleurs que tout le monde soit tombé dessus. D'ailleurs, il y a des... Je fais un petit coucou volontaire. Vous savez, il y a une série qui s'était arrêtée et qui revient, qui s'appelle Plus belle la vie, et maintenant qui s'appelle Plus belle la vie encore plus belle, parce que quand t'as pas d'idée de titre, tu rajoutes encore plus belle.
Non, c'est vrai, elle s'appelle Plus belle la vie encore plus belle.
Oui, tout à fait. okay. Et en fait, bah, y a quand même une association féministe qui a fait une remarque très juste. Entre le passage de France 3 à TF1, et bah, les femmes, elles ont disparu à plus de 70% dans les épisodes.
70%.
Ouais, c'est-à-dire qu'on voit 70% moins les femmes qu'avant. Donc c'est une forme de sexisme, c'est-à-dire que TF1, le groupe TF1, a choisi de faire un nouveau Plus belle la vie, mais on voit moins de femmes, parce qu'il ne faut pas déconner. Et il y a une association LGBT qui s'est remarquée aussi que pour les personnages non hétérosexuels, c'est à peu près le même traitement. Donc on voit bien qu'il y a un repositionnement, et que ce n'est pas un repositionnement involontaire,
positif,
voilà, pas positif. Donc il y a un exemple aussi assez frappant, quand même, pour ce sexisme. Prenons 7 hommes pour parler de l'avortement sans une seule femme sur CNews. Ouais, parce que ces 7 messieurs avaient un avis sur l'avortement, et il faut quand même qu'ils puissent l'exprimer. C'est vrai que ça les concerne directement, non, n'est-il pas? Bon, voilà. On est quand même sur une proportion assez hallucinante. Et ça s'est tellement vu, d'ailleurs, qu'ils ont dû appeler une femme pour dire quand même, on va demander l'avis à une femme. Mais ils ont appelé la rédactrice en chef de Valeurs Actuelles. C'est vrai que ça...
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est...
dans tous les cas, défendu, hein.
Vu la ligne politique du truc, ça sera soit ça, soit Elisabeth Lévy ou je sais pas
c'est
quoi.
Qui,
bon, des femmes d'extrême droite... voilà,
mais en tout cas, ce plateau de 7 hommes de plus de 60 ans pour la plupart et qui vous explique tout l'avortement, c'était ouais, fabuleux. Mais alors, BFM est pas en reste, hein, parce que sur dans le même temps, deux jours après, ils ont fait un plateau spécial sur doit-on mettre l'avortement ou pas dans la Constitution avec 8 hommes et une femme. c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de problème de sexisme, même pas de parité, là, vous voyez, c'est le truc. Voilà. Mais on voit bien qu'il y a un problème.
C'est là où tu dis, mais en plus, hein, je veux dire.
C'est surréaliste.
C'est
quoi.
Comment ils font quoi pour ouais. pas arriver à trouver des interlocutrices quoi.
C'est surtout que je pense qu'il y a quand même beaucoup, ne serait-ce que d'associations féministes comme ça que vous pouvez inviter.
Oui,
je
mais
crois qu'elles diraient non.
Peut-être
qu'ils refusent. Peut-être pour CNews. Mais
peut-être qu'ils refusent d'avoir des personnes qui soient politiquées, politisées
ouais,
avec une idéologie. Alors que CNews, on sait très bien que c'est la neutralité constante.
Surtout CNews. Donc voilà. Donc, et la presse, elle n'est pas en reste. Hein. Entre les magazines dits féminins et la presse grand public, les clichés sexistes envers les femmes pullulent. Le poids, l'âge, la maternité, etc., etc., sont des sujets qui sont systématiquement traités sous un angle soit réprobateur, soit accusateur vis-à-vis des femmes. Alors, quelques petits exemples. Soyez une bonne mère, les 9 façons d'y arriver. C'est le titre de Elle. Oui, donc, on peut se dire, voilà. Ça fait peur, hein.
À peine.
Et j'en ai un autre, parce que celui-là, il m'a quand même fait un peu sourire. C'est donc sur Madame Figaro. L'été approche, il est temps de perdre vos kilos. Avec un point d'exclamation. Alors, ok. Là, tu te sens pas du tout visé.
Voilà. Ouais.
Bon, c'est...
Bah, Madame Figaro, quoi.
Madame Figaro. Donc, remarquez, hein, ça va quand même avec le discours d'un certain président français et son réarmement démographique, hein, finalement. Donc, on voit que, bah, il y a une sorte d'ambiance assez nauséabonde en ce moment, quand même. Alors, elle est loin d'être terminée, la bataille, hein, clairement. La bataille pour l'égalité, hein, donc elle est loin d'être gagnée, on le voit. Et pire, les réactionnaires et les sexistes reprennent du terrain, parce que clairement, c'est ce que montre ce rapport. Et encore une fois, c'est pas un rapport fait par des gens qui seraient hyper orientés, machin et tout. Hein, on est sur un truc quand même, une grosse machine d'État. Ils savent utiliser quand même donc les sexistes et les réactionnaires tous les canaux possibles, tous les moyens possibles, ils sont partout, ils avancent. Le discours a d'ailleurs changé, hein. On a vu émerger des figures réactionnaires qui semblent sympas, qui ont un discours un peu plus lissé, plus acceptable. Par exemple, c'est une Natacha Polony ou une Eugénie Bastier, vous voyez, c'est des nanas comme ça qu'on met, parce qu'on les appelle nanas, parce que j'ai vu ça l'autre jour, je dis, ah, c'est bien, on a des nanas. Ça aussi, ça m'a fait rire, parce que je me dis, ça donne un côté fun, sauf qu'en fait, bah, les deux sont quand même extrêmement réac et extrêmement vieille France sur leur position sur plein de choses quand même, voilà. Et puis le spectre est quand même assez large globalement, où on voit réapparaître comme ça des positionnements, des gens qui portent des positionnements qui ne sont jamais contredits. On a des médecins qui peuvent arriver expliquer par exemple que l'avortement est toujours un drame. Ça, c'était dans une émission il n'y a pas très longtemps sur France 5. Ils s'en sont même excusés parce qu'ils ont dit mais on aurait dû en fait contredire et dire ben non, c'est pas vrai. Sauf que ce médecin, c'était pas n'importe qui, faisait partie de l'association du professeur Joyeux anti-avortement, et donc il a pu professer au nom de son savoir une position extrêmement réactionnaire sans qu'il y ait vraiment de contradiction qui lui soit amenée. Ça, c'est un vrai problème. Sans parler d'ailleurs du cas de Thaïs Descuffon, hein, qui est, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'ancienne porte-parole des identitaires, qui aujourd'hui est la véritable chantre d'un retour en arrière assez hallucinant, mais qui a quand même des millions de followers sur différentes plateformes, Instagram, TikTok, YouTube, et ça, c'est plutôt inquiétant de se dire qu'il y a des millions de gens qui suivent une femme qui vous explique qu'elle fait partie des tradfemmes. Et que, comme en tant que féministe traditionnelle, elle estime que les femmes ont comme positionnement de faire à manger, d'être là pour leur mari et de leur obéir. Et on en est là quand même. Donc c'est pas rien d'avoir des millions de gens qui suivent une femme qui a ce positionnement-là. Alors qu'il y ait des hommes qui aient ce positionnement-là, c'est pas nouveau. Ce qui est assez nouveau, c'est que des figures de proue femmes, féminines, est un discours extrêmement réactionnaire et ouvertement, mais avec un ton extrêmement joyeux.
Mais ça, ils se sont bien habitués au réseau actuel, ouais. Etc. Ça, c'est une certitude.
Et même à l'outil télévisuel. Ah, oui. Ça,
Mais justement, je vais pas te couper, mais oui, en fait, on a quand même aujourd'hui, déjà au moins minimum CNews, ouais. Qui 24 heures sur 24 n'est là que pour servir
l'extrême droite et les réacs.
Et c'est ça en fait, et eux c'est vraiment 24 sur 24. Le dimanche t'as la messe en latin, t'as régulièrement
non, ils
des
ont arrêté ça.
Ah ouais, bah...
parce qu'ils se sont dit ça se voit
mais
il faut quand même faire la messe avec les plus réacs.
Oui, c'est ça en fait. Donc ouais, de fait en fait avant en fait, l'extrême droite, ils avaient Rivarol, ils avaient leurs journaux,
maintenant,
etc.
Ils ont une chaîne.
Maintenant, ils ont une chaîne de télé.
Pas qu'une d'ailleurs, mais parce que CNews, c'est Star, c'est 8,
oui,
c'est tout le même groupe.
Tout lié,
et on voit qu'il y a régulièrement des programmes qui abordent des thématiques. Voilà, c'est quand même eux qui ont diffusé le fameux film américain
anti-avortement
complètement hallucinant. Et ça a été diffusé à 20h30.
Et donc, c'est ça que je veux dire. C'est aussi ça, c'est que. Les réactionnaires se sont adaptés, ils ont des moyens, parce qu'il y a aussi des très riches du côté des réactionnaires,
bien sûr.
Souvent d'ailleurs. Et là, il y en a un très bon, c'est Bolloré, on le sait très bien. Et en fait, il met ses milliards au service de la réaction, ouais. En fait.
Mais après, pour reprendre, là je te rejoins largement sur la télévision. Par contre, moi je rejoins aussi plusieurs youtubeurs qui essayent, ou créateurs de contenu plutôt progressistes, qui disent, mais le problème c'est surtout qu'on n'y va pas. Mmh. Et ils disent, par exemple, les contenus, il faut y aller. Et si sinon, en fait, oui, le seul truc qui est visible, c'est les trucs les plus réactionnaires, quoi. Mmh. Et ils disent, des fois, il faut mouiller la chemise, il faut accepter d'être vu, et il faut y aller, parce qu'ils disent, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de contre-feu, ou très peu, ou très faible. Et moi, je ne me rappelle plus son nom, je suis désolé, mais de celle qui a monté Je m'en bats le clito. Et,
ah oui, Camille, fait, quelque chose.
Ouais, j'ai perdu son nom, je suis désolé. Et qui fait un super boulot, mais elle dit, je suis un peu seule, quoi. Mmh. C'est-à-dire, il va falloir qu'il y ait des choses qui soient montées, et pas que par des sociétés comme Combini ou autres. Il va falloir aussi que des créateurs et créatrices de contenu existent en dehors de ces trucs où on se dit, ah oui, mais il y a déjà ça. Bah oui, mais ça suffit pas, en fait.
Mais ouais, mais sauf que le truc, c'est que l'extrême droite n'a pas d'éthique. Là où on va dire. Mais
non, on a une éthique, oui.
Mais c'est ça, on a une éthique. Donc on va souvent se dire, ouais, non, mais attends, je vais pas servir la soupe à Mark Zuckerberg sur Facebook, etc.
En attendant, on laisse de l'espace.
En fait, on laisse de l'espace. Donc en fait, peut-être que des fois, il faut se dire, bon, ok, ça va me dégueulasser un peu éthiquement, mais je vais pas laisser le terrain que à l'extrême droite, en
fait. C'est ça. Donc moi, je sais que dans la causerie, on appelle souvent à ne pas baisser les bras et à continuer le combat, mais c'est pas faute de rêver du jour où ce sera plus nécessaire et où nous pourrons dire simplement « super le constat, non ?» Vous voyez, ce sera bien ce jour-là où j'aurai trois lignes à faire.
Ce serait super.
Voilà. Mais le seul truc, c'est qu'il faut aller vers ce jour-là. Et ben donc, ça va demander effectivement de ne pas baisser la garde et de continuer. Et surtout de se rappeler que, en fait, l'égalité, c'est pas un combat uniquement réservé à ceux qui subissent des oppressions. C'est un combat collectif. Hein.
Oui.
Voilà. Et c'est tant qu'on n'aura pas aussi compris, vas-y, parle d'Adi, tu mets ton micro. Il y a longtemps que tu fais la radio. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, en fait, justement, on sortira pas de cette ornière, parce que oui, c'est pas qu'un combat des personnes concernées, quoi.
Ah ben non, ouais. Et puis, enfin, je veux dire, si on veut que les mecs arrêtent d'être des connards, et ben il va falloir s'y prendre très tôt et leur apprendre que le respect, c'est dès le plus jeune âge. Arrêter aussi de les enfermer dans des rôles.
Et puis élever les filles comme les garçons.
Et, non, mais oui, évidemment, dans ce sens-là
c'est
aussi.
C'est le premier grand pas à faire. Hein.
Oui, mais c'est, en fait, c'est pas forcément en opposition avec ce que je dis, non. Mais c'est. Oui, en fait, c'est un des socles premiers. C'est là que ça va se passer aussi, en grande partie, même si on peut toujours changer, on peut évoluer, évidemment, parce que sinon, ça serait un déterminisme absolument affolant, et ça, on peut pas le réaccepter non plus.
Mais je pense qu'on peut changer. Hein,
mais effectivement, c'est la base, elle est déjà importante aussi au départ à faire, quoi. Enfin bref, on passe à la musique, parce qu'il est 23h quand même.
J'aime te surprendre, te sentir dérouté. Je m'amuse à tout fendre quand tu te mets à douter. J'aime que ça parte du ventre et du bassin. Je libère mon sang de son dessin. Mon instinct est mon phare, mon labeur contrôle. Les divagations de mes pensées, je connais bien mes termes et je sais comment me dépasser. Ça part du ventre et du bassin. Je libère mon antre de son destin. Je suis de celle qui nage à contre-courant, qui refuse le sens du vent, qui refuse d'être la réplique de la réplique de la réplique. Celle que personne ne peut attraper, ni tenter d'emprisonner, sans que je réplique. Que je réplique, que je réplique. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Cuando una mujer se afianza, esto te cierra la boca. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Qué pequeño estás sin tu ejército atrás. J'aime me suspendre au fil de tes pensées. Je m'amuse à le tendre, le dénouer, le couper. J'aime que ça parte du ventre et du bassin. Je libère mon antre de son destin. Mon flair et mon phare, mon instinct presque sorcier. Ma volonté peut effaroucher, je déjoue le hasard et je cherche comment le provoquer. Ça part du ventre et du bassin. Ça libère mon sang de son destin. Esto te cierra la boca. Vale, ahora te escucho, pero no hablas mucho. Qué pequeño estás sin tu ejército atrás.
De retour dans la causerie au 102 sur RadioCanu.org et vous venez d'entendre le nouveau titre de de...
Olivia Ruiz.
Oui, Olivia Ruiz, c'est ça. Et ça s'appelle La Réplique. Voilà. Et moi, je l'aime beaucoup.
Ah, moi
je trouve qu'il est très bien écrit et que franchement, il fait du bien. Donc voilà, et je ne sais pas ce qu'elle va faire après, mais en tout cas, ce titre-là, j'aime
en tout cas, celui-là, on valide.
Voilà,
je pense que ça lui importe beaucoup.
Oh, pas du tout, mais en tout cas, voilà, mais moi, ça me fait plaisir de l'avoir passé.
Mais tu fais bien.
Et donc, du coup, on ne va quand même pas faire de brève parce qu'il est tard.
Oui,
et qu'on n'a pas le
tard.
Temps.
Mais on va quand même, avant de se quitter, vous rappeler évidemment les petites infos pour nous joindre, nous écouter, etc. etc. Donc si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas, si vous êtes une asso, une artiste, auteur, autrice,
quelqu'un qui a quelque chose à dire.
Voilà, et que bah, hésitez.
C'est intéressant.
Mais ça après on valide ou pas. Il y a une phase validation avant quand même.
Et bien n'hésitez pas à nous envoyer un mail, c'est à la causerie canu, tout attaché en minuscule, donc la causerie canu @gmail.com. Vous pouvez nous entendre, nous réécouter, etc. etc. sur le blog de l'émission déjà, c'est sur blogs.radiocanu.org/la causerie ou dans votre petit moteur de recherche, vous tapez la causerie Radio Canu, vous devriez tomber sur nous. Et c'est aussi sur le blog qu'on vous invite à laisser des commentaires si vous en avez à faire, à donner, à partager vos avis. Donc n'hésitez pas, c'est sur le blog que ça se passe, c'est tellement mieux. Et vous retrouvez aussi évidemment nos émissions sur un réseau socio-commercial, aka
Facebook
pardon. Et il y a aussi des personnes qui nous partagent sur d'autres structures, d'autres réseaux moins commerciaux ou pas commerciaux.
Certains oui, d'autres non.
Voilà. Et vous pouvez aussi évidemment retrouver la causerie dans différents trucs de podcast, plateformes de podcast.
Ben, sur toutes les plateformes de podcast, vous tapez la causerie Canu. On doit être là.
Et ben voilà, je crois qu'on a tout rappelé.
Sinon, si vous voulez des infos, allez sur rebellion.info.
Voilà.
Voilà, par exemple. Brèves. Et si vous voulez découvrir un opéra accessible, ben, en ce moment, vous pouvez aller voir Barbe Bleue à l'Opéra de Lyon. Je vous dis, parce que si vous n'avez jamais vu d'opéra et que vous voulez un truc sympa, bah, c'est accessible, c'est bien et ça vous donnera une image un peu plus positive de l'opéra. Voilà.
Oui. Et ben voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Nous, on vous donne rendez-vous évidemment la semaine prochaine à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org.
Quelques temps des invités, mais on ne sait plus quel jour.
Ouais, c'est ça, mais ça sera au mois de février, au mi-février.
Non, c'est 18.
18.
Voilà.
Ah, t'as vérifié?
Non, ah, j'en suis sûr.
Non, non, on est sûr. Ah ben c'est Clara.
Quelle assurance.
Ah, c'est Clara, le jour où Clara n'est pas sûre, elle ne dit rien.
Elle n'est pas soi.
N'est pas sûre.
Ah, n'est pas sûre.
N'est pas soi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est temps de rendre l'antenne, allez.
C'est exactement ça. Et c'est toi qui nous annonce le titre.
Bah, tu m'as désigné comme volontaire pour...
Là aussi, elle est sûre.
Pour annoncer le titre.
Sinon, je le fais, hein, si tu veux absolument pas le faire.
Bah, vas-y.
Qu'est-ce qu'elle est mauvaise. Alors, mauvaise dans le sens méchante, hein, pas incompétente. Alors, on va se quitter.
On va se titrer.
Se titrer.
Titrons-nous.
Oh oui,
bon, titrons,
titrons-nous en folie et en groupe. Alors, on va s'écouter le titre Furia Electronica et c'est de l'artiste Voracles. Je sais pas du tout comment on dit.
Voracles.
Voracles. Enfin bon, bref, vous retrouverez son orthographe sur le blog de l'émission si vous cherchez. Mais même si vous tapez Furia Electronica, vous devrez tomber sur lui. C'est un mec qui a une base classique et qui très rapidement s'est amusé à mélanger tout ça avec des sons électro, ce qui nous donne un mélange très bon. Et ben voilà, on se quitte en musique, évidemment. Bonne soirée à toutes et à tous. Bon courage pour la semaine à venir. À dimanche prochain.
Des bisous.
Ciao, ciao.
Ciao.